Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Au mois d'avril dernier, le jeudi 18, très exactement, une dépêche AFP annonçait une macabre tuerie dans une maison d'édition turque distribuant la Bible. À Malatya, dans l'est du pays, en effet, deux Turcs et un Allemand avaient la gorge tranchée après avoir été torturés pendant plusieurs heures. La maison d'édition dans laquelle l'acte odieux avait été commis publiait des Bibles et imprimait des livres sur le protestantisme. Attaque antichrétienne, sans aucun doute, confirmée par l'arrestation de plusieurs suspects, expliquant leur geste de la façon suivante. « Nous l'avons fait, disait-il, pour la patrie. Notre pays et notre religion étaient menacés. » La communauté protestante réagit naturellement contre ce crime odieux, un crime qui fut placé dans la continuité du meurtre l'an dernier à Trabzon, dans le nord de la Turquie, du prêtre catholique italien Andrea Santoro. Dans la continuité aussi d'un autre meurtre, celui d'un journaliste d'origine arménienne, Rant Dink, à Istanbul, au mois de janvier de l'année donc 2007. Quoi qu'il en soit, quelques jours après le crime de Malatya, les Arméniens d'Erevan célébraient le 92e anniversaire des massacres commis par l'Empire ottoman. La Turquie va-t-elle renouer avec ses vieux démons ? Quelle place occupe l'islam radical dans cette société ? Et à contrario, quel rôle joue la laïcité dans ce pays à 99% musulman ? L'actualité tragique n'est-elle que le fruit d'un ultime geste désespéré, celui du terroriste, du kamikaze ? Eh bien, avant toute question, je vous propose aujourd'hui de lever un coin du voile sur un des épisodes tragiques du début du XXe siècle, une page du génocide arménien. Nous sommes le 14 avril 1909 à Adana, en Cilicie. La semaine de Pâques, en fin de matinée, on tire des fenêtres, des terrasses et des minarets au cri de « couper, couper les infidèles ». Pour nous, un missionnaire, le père Rigal, a tenu un journal de ces quelques jours qui furent un prélude, en quelque sorte, au massacre plus massif de 1915. Raphaël Steinville, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous êtes journaliste au Figaro hors-série, le Figaro hors-série qui est partenaire de Canal Académie, et vous venez de publier un document historique que naturellement vous commentez. Il s'agit d'un livre que vous avez intitulé « Page de sang » avec comme sous-titre « Un prêtre français témoigne des massacres arméniens ». Un ouvrage paru, Raphaël Steinville, aux presses de la Renaissance. Alors, ce livre a une histoire, comme tous les ouvrages, et ce livre a une histoire bien particulière, puisque sa genèse s'inscrit dans un long pèlerinage que vous avez fait de Paris à Jérusalem, c'est juste ?
Oui, c'est ça. En l'an 2000, c'était le jubilé de l'an 2000 pour les chrétiens. Il se trouve que je me suis décidé à partir à pied de Paris à Jérusalem. Alors, ce pèlerinage aussi a une petite histoire, c'est qu'en 99, j'étais parti une première fois, un peu comme on part en vacances, sur le chemin de Compostelle. Il se trouve que je devais faire initialement un Tour de France à la voile. Le projet a capoté et tombé à l'eau. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais au mois de juillet ? J'avais entendu parler de ce chemin de Compostelle. J'avais un désir qui trottait en moi. Et puis, je me suis décidé donc une première fois à partir à Compostelle. Et puis, au fur et à mesure que je marchais, j'étais un petit peu atteint de pèlerinite aiguë. Arrivé à Compostelle, j'ai voulu aller plus loin. La marche, ces 800 premiers kilomètres, finalement, avaient été trop brefs pour moi. Et donc, j'ai eu la volonté, une fois achevé mes études, de partir vers Jérusalem avec tous les rêves, toute la fascination que peut supposer cet Orient, cette ville sainte, ces déserts éventuellement que j'allais traverser. Et donc voilà, au mois de juillet de l'an 2000.
Vous aviez quel âge ?
Donc j'avais 23 ans. J'avais 23 ans et donc je partais seul, en mendiant quasiment, depuis Notre-Dame de Paris, pas si loin de nous actuellement, et puis jusqu'à Jérusalem. Donc une immense inconnue devant moi, plus de 6000 kilomètres, des rencontres étonnantes. Et puis le fait d'être seul, cette contrainte de ne pas avoir d'argent, mais aussi c'était cette possibilité de pouvoir rencontrer des gens, cette dépendance finalement que je créais pour m'obliger à aller vers les autres. Tout ça était merveilleux. J'en ai fait un premier ouvrage qui s'intitule « J'irai prier sur ta tombe » où je raconte justement ces longs mois de marche et puis également de prière. Toutes les choses se mettaient en place chez moi. Il se trouve que je suis catholique. J'avais avant une foi un peu tiède, bref, issu d'une famille pratiquante. Mais voilà, il y a eu une sorte de réveil pour moi et ça s'est fait sur cette route fascinante de Jérusalem.
J'irai prier sur ta tombe à pied de Paris à Jérusalem, paru aux éditions François-Xavier de Guibert en 2002. Alors vous arrivez en Turquie, quel était l'état de vos connaissances sur la Turquie à l'époque ?
À vrai dire, pas grand-chose. J'avais bien lu quelques livres pour préparer mon voyage, mais à part quelques films, Midnight Express pour le côté le plus négatif de la Turquie, je dois dire que sinon j'avais un attrait très fort pour ce pays. Je connaissais, j'avais vu un certain nombre de documentaires, des paysages qui m'apparaissaient comme évidents. Donc il y avait également la Mosquée Bleue, Sainte-Sophie, toutes ces monuments que je voulais visiter. Mais sinon, j'avais un regard assez vierge, assez pur, limite naïf sur la Turquie. Et je dois dire que dans un premier temps, j'ai été totalement séduit, emballé par ce pays, la générosité de ses habitants. J'ai eu un passage lors de ce pèlerinage en Grèce un petit peu difficile, où finalement le fait de me présenter comme un pèlerin catholique dans un pays orthodoxe, les gens étaient un petit peu réticents à m'accueillir. En revanche, passé la frontière à Uppsala, je dois dire que j'ai été immédiatement accueilli avec une générosité immense, les enfants me prenant par la main, m'accueillant dans leur famille, me conduisant jusqu'à leurs parents. J'attendais là un peu abasourdi de tant de générosité, et puis tout d'un coup arrivaient les plats d'orange, le thé. Bref, c'est vrai que c'était merveilleux pour moi de pouvoir traverser ce pays, de connaître ces gens de manière si facile, un contact vraiment très très simple avec ces gens-là. Et je dois dire que le fait de se présenter comme pèlerin, loin de m'attirer un certain nombre de réprimandes, de reproches, loin de m'interdire certaines choses, le fait d'être pèlerin, j'étais vraiment accueilli avec un très grand respect parce que le pèlerin, dans l'islam, c'est le Hajj, c'est celui qui se rend à la Mecque, il y a d'autres lieux saints également, mais bref, il y avait un très grand respect pour la démarche que j'accomplissais à pied, en solitaire, avec toute la souffrance parfois que peut supposer cette solitude. Et donc, voilà, il m'accueillait vraiment de manière très, très ouverte.
Alors, vous arrivez dans une petite ville qui s'appelle Adana, qui est une ville que vous décrivez, j'allais dire, de manière très négative. Ce n'est pas une belle ville.
Oui, c'est vrai que après avoir traversé Istanbul, j'y suis resté une petite semaine, visité toutes ces choses magnifiques, et puis d'autres villes également magnifiques avec des paysages somptueux, notamment en Anatolie avec ses hauts plateaux, ses couleurs sublimes. D'arriver dans cette ville pourtant qui est située donc au contrefort du mont Taurus en Cilicie, cette ville finalement elle est extrêmement terne, ennuyeuse, sans hauteur, finalement très peu orientale.
Vous dites même les minarets ne sont
ouais,
pas...
Oui, c'était rien pour accrocher le regard. Quoi. C'était triste à mourir. Mais dans cette petite ville, il se trouve qu'après de longues semaines de solitude, sans trouver un seul monastère, sans trouver une seule église, tout d'un coup, enfin, une église, une petite communauté chrétienne, c'était pour moi d'un grand réconfort. C'est vrai que d'Istanbul jusqu'à Adana, mis à part Tars, qui est une ville qui est à 30 km d'Adana, où il y a encore une église, mais qui n'est ouverte qu'occasionnellement lorsque des groupes de pèlerins accompagnés d'un prêtre en font la demande. Donc c'est vrai que là, pour une fois, je me retrouvais en présence d'une communauté constituée.
C'est-à-dire, en fait, dans votre parcours, vous ne prévoyez absolument pas une halte dans tel monastère ou bien dans tel endroit.
Non,
vous y allez un peu au petit bonheur la chance.
Oui, c'est ça. Souvent, je me laisse guider par des gens qui me conseillent de passer par telle ville, d'aller à tel endroit pour découvrir tel paysage. Je dois dire que j'avais un petit peu préparé par des lectures cette longue route, mais je me refusais à prévoir des haltes parce que ça serait m'interdire peut-être des rencontres. Là, justement, il y avait un côté très spontané. Parfois, il m'arrivait souvent même de dormir à la Belle Étoile, faute de pouvoir trouver un seul village, notamment en Anatolie. C'était des kilomètres et des kilomètres sans rencontrer une seule ville. Donc voilà, parfois il m'arrivait de dormir dehors, dans les fossés. Il se trouve que c'était une période un petit peu difficile parce que c'était au début de l'hiver, en octobre, en novembre. Donc ça, il m'arrivait de dormir et de me réveiller le matin la barbe gelée. Mais ça faisait partie de l'aventure, je dirais.
Alors, vous rencontrez cette communauté chrétienne et il y a trois personnages au centre de votre histoire. Ce sont trois religieuses que vous décrivez avec beaucoup d'affection.
Oui, parce que je suis arrivé dans cette petite communauté fatiguée, épuisée par ces longs mois de marche. Depuis Istanbul, je ne m'étais pas arrêté quasiment, quoi, si ce n'est une journée par-ci par-là. J'arrive épuisé. Et puis, je tombe sur trois religieuses délicieuses qui ont grosso modo une cinquantaine d'années. Sœur Antonia, sœur Antonella et sœur Andrea, sœur Libera, pardon. Et elles sont d'une affection, d'une délicatesse toute particulière. D'abord, elles me soignent un petit peu. Elles me demandent de me reposer parce qu'elles voient dans quel état j'arrive. L'une d'elles entreprend de recoudre mes vêtements déchirés, usés. Tout ça se fait de manière très familiale, je dirais. Et je découvre en ces sœurs, voilà, trois petites mères qui viennent un petit peu donner du réconfort à leur fils parti pendant des mois et qui sont heureux de pouvoir le retrouver un peu comme l'enfant prodigue, je dirais.
Alors, un prêtre faisait partie de cette communauté ?
Alors, un prêtre faisait partie de cette communauté. Il se trouve que lorsque je suis arrivé, il était absent, il était en Italie, il se faisait soigner d'une hanche et finalement, il n'est jamais revenu. Il se trouve que le clergé, la plupart des missionnaires qui sont en Turquie sont italiens et je dirais qu'ils ne sont pas de la première jeunesse pour la plupart. Et donc, il se trouve que justement, celui-là n'a pas pu revenir. En plus, il se trouve, chose particulièrement intéressante, je dirais, c'est que cette communauté vit dans une église. Il n'y a pas de pièce à vivre, si ce n'est justement une partie de l'église qui a été un petit peu aménagée pour pouvoir accueillir ces trois religieuses, ce prêtre lorsqu'il est là, et puis éventuellement les pèlerins de passage, qui sont, on ne peut pas dire, vraiment très nombreux. Et donc voilà, c'était il y a encore une vingtaine d'années, un bâtiment avec une cour importante, un collège et tout ça. Et tout ça, au fur et à mesure du temps, a disparu. Et donc, cette petite communauté vit à l'intérieur de l'église. Voilà.
Je reçois Raphaël Steinville, journaliste au Figaro et auteur du livre Page 200, paru aux presses de la Renaissance. Nous nous retrouvons dans un instant. Un jour dans l'histoire s'arrête sur une page du génocide arménien à travers le livre de Raphaël Steinville, journaliste au Figaro hors série, le Figaro hors série, partenaire de Canal Academy. Raphaël Steinville, vous avez écrit donc ce livre paru aux presses de la Renaissance, page 200. Un prêtre français témoigne du massacre des Arméniens. Alors vous nous avez présenté dans la première partie de cette émission, j'allais dire le contexte général de votre présence en Turquie, dans cette ville d'Adana, et tout commence un soir, au cours d'un repas, à la fin plus exactement d'un repas. Racontez-nous un peu la genèse de cet ouvrage.
Alors, ces trois religieuses qui m'avaient accueilli, qui m'avaient demandé de me reposer, j'étais un petit peu libre de faire ce que je voulais, me reçoivent chez elles. Et puis, au cours d'un dîner, un petit peu agacé de ma vision naïve, trop angélique finalement de la Turquie contemporaine, me remettent un manuscrit pour faire évoluer peut-être un peu mon regard. Je dois dire que, dans un premier temps, la Turquie, pour moi, était vraiment, je l'ai déjà dit dans un premier temps, avait été particulièrement généreuse. Et le fait que je me présente comme chrétien, le fait de me dire pèlerin, n'avait suscité absolument aucune haine, rien de tout cela. Et le fait, finalement, ce qu'elles ont cherché à me faire comprendre en remettant ce manuscrit dans un premier temps, c'était de dire qu'il y avait une grande différence entre le pèlerin de passage et puis ces missionnaires qui s'installent, ou ces chrétiens qui vivent depuis des siècles et des siècles en Turquie et qui subissent finalement, jour après jour, une sorte de persécution qui peut être psychologique, qui peut être physique et qui peut aller jusqu'à la tuerie, on le verra. Et donc tout commence par ce manuscrit qu'elle me remet, écrit par un prêtre.
Dont vous ne connaissez pas le nom.
Je ne connais pas le nom. C'est, j'irais, un journal. Ce manuscrit tient à la fois du journal de bord et puis l'histoire le dira aussi finalement peut-être de notes préparatoires pour des revues tenues par les jésuites. Et donc ce manuscrit relate finalement le massacre d'Adana qui a lieu aux alentours au mois d'avril en 1909. Il commence le mercredi de Pâques. Et donc je découvre finalement soudain l'horreur absolue avec ces chrétiens arméniens égorgés dans leur famille, dans leur maison. Et je dois dire que c'est un choc. Je ne pouvais pas soupçonner, finalement, pour moi, le génocide arménien, j'en avais une vague idée, mais je veux dire que le fait de traverser la Turquie, je ne voyais même pas le lien. C'était pour moi vraiment une découverte étonnante et, je dirais, tragique.
Mais à vous lire, on sent que vous prenez en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, une claque.
Ouais.
C'est une réalité, vous la voyez comme une réalité historique, non pas comme une réalité contemporaine ?
Dans un premier temps, le lien n'est pas évident et c'est vraiment, je le ressens comme une réalité historique. C'est au fur et à mesure
de mes recherches
et puis aussi de mes discussions, parce que ce manuscrit, une fois que j'ai pris ma claque, c'est exactement le terme, c'est extrêmement fort. J'ai besoin de me confier, de me livrer à ces sœurs qui me reçoivent, de comprendre pourquoi elles me l'ont remis et quelle est l'utilité finalement de ce geste. Pourquoi ? Alors c'est vrai que je leur avais annoncé que j'étais déjà un peu journaliste et donc elles ont vu en ma présence, elles ont vu aussi dans ma naïveté, dans ce regard extrêmement naïf que j'avais, extrêmement pur d'une certaine manière que j'avais sur la Turquie, la possibilité de pouvoir rectifier les choses. Et donc ce manuscrit pour eux, c'était un appel au secours. En me donnant ce manuscrit, c'était d'une certaine manière me dire voilà ce qui s'est passé hier et voilà aussi les difficultés que nous vivons aujourd'hui et qui ne sont pas si différentes, pas si lointaines finalement de ce qu'ont pu vivre de manière atroce 30 000 Arméniens du vilayet d'Adana.
Alors, réflexe, j'allais dire trop rare malheureusement chez beaucoup de personnes qui trouvent des textes de ce genre, votre premier réflexe, c'est de recopier le manuscrit.
Alors je dirais que ce n'est pas vraiment un réflexe, c'était un ordre. Parce que la mère supérieure, je dirais, lorsque s'est achevé ce repas, m'a reconduit jusqu'à ma cellule et m'a donné ce manuscrit avec vraiment pour mission de le retranscrire, de l'écrire in extenso, sans rien omettre. Et donc voilà, commence de longues nuits de copies de ce manuscrit.
C'était un gros manuscrit ou...
C'était une centaine de pages manuscrites, ouais. Donc ce qui fait dans le livre, grosso modo, une cinquantaine de pages. Voilà. Et avec une écriture serrée, hachée. Alors, je n'ai pas réussi, malgré mon enquête, à savoir si ce manuscrit avait été écrit dans l'urgence, juste quasiment de manière simultanée au massacre que décrit ce prêtre, qui était témoin de ces massacres, ou... 1, 2 mois ou 6 mois après, pour finalement faire connaître la réalité de ces événements à ses supérieurs en France. Ça, j'ai pas vraiment. Peut-être qu'il y a plusieurs temps de l'écriture aussi dans ce manuscrit. Le fait est qu'il est absolument poignant. Ce prêtre fait partie. Ils sont grosso modo 6-7 jésuites qui sont dans un collège, qui est également un orphelinat. Et voilà, il est aux premières loges. Il est aux premières loges de ce qui se passe, de ce qui débute ce mercredi de Pâques. Et c'est absolument terrifiant.
Quelle est, peut-être avant de rentrer dans le détail de ce manuscrit, quelle est la situation en 1909 des Arméniens en Turquie ?
Alors, les Arméniens en Turquie, l'Arménie telle qu'on la connaît aujourd'hui, est un territoire, j'irais maintenant, picrocolin. À l'époque, en 1909, l'Arménie, le territoire où qu'occupe la communauté arménienne, s'étend de l'actuelle Arménie jusqu'à la Méditerranée, avec notamment, il y a comme
le mont
Ararat, ça va jusqu'au Taurus. Et donc voilà, c'est une zone immense, avec des Arméniens qui occupent pour la plupart, en tout cas c'est extrêmement vrai à Adana, de hautes positions sociales dans la société. La plupart, il y en a énormément qui sont propriétaires de vignes. La région d'Adana est une région extrêmement fertile. Bref, les chrétiens arméniens sont présents depuis toujours, j'irais, dans cette Turquie,
Qui est sous domination
qui est sous domination
ottomane.
ottomane. La Turquie ottomane déborde jusqu'à l'actuel Liban. Et donc, dans cet immense empire ottoman, il y a une très forte communauté arménienne, avec depuis quelques années des jeunes turcs qui ont une pensée de plus en plus, je dirais, nationaliste, qui cherchent à forger l'identité turque. Et cette identité turque passe notamment par la reconnaissance de l'islam comme terreau, substrat essentiel de la culture ottomane, turque.
Alors, en face, il y a une forte identité arménienne. Nous avons enregistré au micro de Canal Academy un numéro spécial de la revue des Deux Mondes, Arménie, aventure d'une nation. Nous renvoyons nos auditeurs à cette émission. Et il y a un article très intéressant dans ce numéro spécial, un article de Michel Marian, Autoportrait d'une nation, qui montre que l'identité arménienne s'est fondée autour de la conversion de l'Arménie au christianisme, l'invention de l'alphabet arménien, la défense du christianisme contre le zoroastrisme, qui était donc une autre religion, et enfin l'indépendance de l'Église arménienne. Il y a un sentiment religieux très fort que l'on a du mal à imaginer, nous, en France, à l'aube du XXIe siècle, alors que l'Arménie est le premier État chrétien de l'histoire de l'humanité.
Oui, c'est un petit peu la première fille aînée de l'Église. Alors c'est vrai qu'après, il y a eu un schisme, mais c'est l'Arménie en tant que telle est un pays éminemment chrétien.
Alors revenons-en donc à Adana, nous sommes en 1909. Quelle est l'origine de l'affrontement? Quelle est l'étincelle qui, du jour au lendemain, a amené à ce que ça tire dans les rues de toutes parts? Car au fond, j'allais dire, si on part d'un raisonnement purement historique, est-ce qu'il y a une responsabilité établie, un pouvoir qui à un moment décide que les chrétiens soient massacrés, ou tout simplement c'est un conflit de quartier qui amène cet affrontement en général?
Alors c'est vrai qu'il y a des tensions très fortes qui traversent toute la société turque, et notamment aux endroits où sont situées les communautés arméniennes. Et je dirais que ce contexte de tension, avec notamment une constitution ottomane nouvelle qui est extrêmement discutée, extrêmement âpre, avec des débats très houleux, bref, le contexte n'est pas sain. Et dans ce contexte, je dirais que le moindre événement, la moindre étincelle, le moindre malentendu peut dégénérer. Et c'est un peu comme ça que démarrent ces massacres à Adana. C'est un jeune arménien, en prise à deux, trois Turcs qui l'agressent dans un premier temps, qui a le malheur, je dirais, de tirer un coup de revolver, de tuer l'un de ses assaillants, et tout démarre comme ça. Donc la responsabilité, je dirais, elle n'émane pas des autorités turques qui vont déclencher les massacres, mais disons qu'il y a un effet boule de neige, et tout d'un coup, cette furie, avec ses appels à la vengeance pour d'abord trouver ce jeune, et puis finalement, puisqu'on ne le trouve pas, pour punir, châtier les autres Arméniens en présence, va totalement dégénérer. Et le pouvoir en place, le pouvoir local, s'il n'était pas à l'origine de ces massacres, va progressivement utiliser ces premiers événements, j'irais capitaliser sur la haine des Arméniens pour transformer ça en geste politique quasiment.
Alors, le massacre ne se limite pas à la ville d'Adana. Le père Rigal présente également tout ce qui se passe aux alentours.
Oui, c'est ça. Alors, le massacre,
L'origine est la même, c'est-à-dire ce conflit, enfin la mort de ce Turc.
c'est pas totalement établi. On voit très bien que de manière quasiment concomitante, à des kilomètres du cœur d'Adana, que les jésuites apprennent, au fur et à mesure que se met en place ce contexte, que des meurtres ont lieu, notamment dans la province d'Adana. Donc, le lien n'est pas évident.
Donc il y a vraiment un
Il
conflit,
y
des
a
tensions généralisées dans
une tension
toute la
vraiment
région.
généralisée. Le fait est qu'à Adana même, l'élément déclencheur a été ce meurtre d'un Turc par un Arménien qui a tout d'un coup conduit les plus zélés des Turcs à prendre les armes pour se venger.
Alors comment réagissent les autorités, hein, le gouverneur du lieu, c'est ce que nous verrons, Raphaël Steinville, après cette deuxième pause.
Nous venons de vivre une élection présidentielle qui a passionné les Français et de clore la présidence de Jacques Chirac après 12 années à l'Élysée. Henri Amouroux, fin observateur de l'actualité en tant que journaliste, chroniqueur au Figaro et historien, se livre à l'exercice de narrer les trois fins de règne, ce sont ses propres termes, du général de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac, où l'on comprend mieux les différences de personnalité de ces trois hommes, mais aussi l'évolution de la société française dans ses rapports à l'institution présidentielle. L'interview s'est faite en quatre temps, d'abord une présentation générale du livre d'Henri Amouroux, « Trois fins de règne », puis une émission consacrée à chacun des trois présidents qui ont passé plus de 10 années à l'Élysée. Criblées d'anecdotes et de commentaires, les interviews d'Henri Amouroux ne manqueront pas de vous surprendre. Ces émissions sont en libre téléchargement sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Raphaël Steinville, auteur du livre « Page 200 », un livre paru aux presses de la Renaissance. Un prêtre français témoigne du massacre des Arméniens. Il s'agit, Raphaël Steinville, d'un manuscrit que vous avez recopié et également commenté, le manuscrit d'un prêtre français donc qui a vécu les massacres d'Adana en 1909 en Turquie. Alors nous avons évoqué l'origine du conflit, enfin l'origine des massacres. Comment réagissent les autorités du lieu ?
Dans un premier temps, elles sont totalement absentes. C'est-à-dire qu'il y a un déchaînement de haine qui s'exerce à l'égard des Arméniens et en dépit des appels au secours, notamment de ce père jésuite, le père Rigal, qui est présent, qui envoie des messages au Valli, pour le gouverneur de la province d'Adana, pour lui demander de l'aide. Il n'a pas de réponse, il n'obtient pas force de police nécessaire pour contenir les Turcs. Et puis, on voit très bien que ces massacres se déclinent en plusieurs temps, avec de temps en temps des pauses, des moments d'accalmie, où justement, le gouverneur reprend un peu la main, désarme, et c'est là aussi où sa responsabilité est immense, désarme les Arméniens qui avaient cherché à se protéger, pour contenir les assauts des Turcs, et appelle les autorités religieuses en leur assurant que la paix allait être rétablie, qu'il n'y avait plus rien à craindre, que les autorités civiles, que la police allait faire son travail, que plus rien n'allait, plus aucun acte criminel n'allait être commis. Et dans les 48 heures qui suivent, de nouveau, des assauts avec justement des Arméniens qui sont totalement dépourvus après avoir abandonné leurs armes en faisant confiance aux autorités pour les garder, pour les protéger. Il y a aussi ces immeubles qui brûlent de partout et puis ces pompiers qui, au lieu d'éteindre le feu, jettent finalement de l'essence pour aviver les flammes sur ces maisons d'Arméniens qui brûlent dans toute la ville. Donc vraiment, on sent cette complicité. Le palais du gouverneur, jusqu'au palais du gouverneur, les Turcs vont se servir, prennent les armes et il y a une passivité incroyable devant ces vols commis. Alors ils s'en lavent les mains, c'est ça. Il y a vraiment... c'est quoi, c'est compliqué de dire avec exactitude, d'établir avec exactitude la responsabilité, la culpabilité, je dirais, du pouvoir civil. C'est assez évident et en même temps, c'est assez flou tout ça. Mais en tout cas, il y a un laisser-faire qui est absolument indigne.
Alors la nationalité ne compte pas, hein, parce que le père Rigal décrit hein, des Américains, notamment, qui sont tués.
Par ricochet, je dirais.
Oui, par ricochet. Le père Rigal tente de contacter le consul de France.
Oui. Alors le consul de France ne répond pas. D'ailleurs, il s'en plaint, je dirais même qu'il est accablé parce que à cette époque, la France, je dirais, crayonne sur toute cette partie, que ce soit cette partie de la Turquie, mais également le Liban. La France est vraiment le protecteur de ces chrétiens d'Orient et la France est étonnamment silencieuse. Alors il y a bien des cuirassés qui sont dans la baie de Mersine, voisine d'Adana, mais l'aide qu'attendent notamment ces jésuites, ces Français pour secourir ces Arméniens ne vient pas. ou vient trop tard.
En revanche, l'anglais, lui, est présent.
Oui, il y a un consul anglais qui est étonnant de bravoure, qui fend la foule à cheval. Bien que blessé, on le voit porter secours aux jésuites, aux petites religieuses qui sont également présentes, mettant tout son courage et tout son honneur, finalement, à venir en aide à ces chrétiens qui souffrent.
Je vais me permettre de lire un petit passage. Hein. C'est un passage. Alors évidemment, les chrétiens tentent de se réfugier dans les endroits religieux. Ils se réunissent. Hein. Bientôt, dit le père Rigal, il ne resta plus un coin de libre dans la maison. Il fallait faire des prodiges de gymnastique pour circuler à travers cette masse humaine qu'on pouvait facilement estimer à 8 000 âmes. Nombreux sont ceux parmi ces pauvres bougres, morts de faim et morts dans l'âme, qui ne purent s'asseoir pendant ces longues, ces interminables journées qui n'en finissaient pas avec la fin du jour. Les corps s'entassaient comme des pierres, ce n'étaient plus des hommes, mais des pierres, un amas de pierres. Ils semblaient ne plus avoir aucune réaction, amorphes, anesthésiés par la peur et l'horreur. Il y a à la fin du manuscrit du père Rigal une sorte de décompte. Hein. On sait à peu près combien il y avait d'Arméniens, de chrétiens à Adana à ce moment-là.
Alors, les massacres en tant que tel, d'Adana représente 20 000 Arméniens tués au cours des massacres pour une ville qui devait compter grosso modo 100 000 personnes avec une très forte population arménienne. Et pour Adana et ses provinces, c'est 30 000 personnes qui ont été tuées, assassinées pendant ces 3 semaines de folie.
Donc en plus des 20 000.
Voilà. Non, c'est 10 plus 20.
Alors, les Arméniens se défendent tout de même,
oui.
Ou tentent de se défendre.
Oui, dans un premier temps, on voit les Arméniens qui prennent les armes. Les tensions étant très fortes, ils s'étaient un petit peu prémunis. Il y avait des milices, je dirais plus ou moins paramilitaires, qui étaient chargées d'assurer la sécurité des quartiers. Et dans un premier temps, ils répondent avec beaucoup de courage. Il y a des jeunes, notamment, qui prennent les armes et qui tiennent les quartiers, faisant aussi énormément de morts parmi les assaillants.
Alors, vous terminez la copie de ce texte, mais malgré tout, votre livre est haché par des moments de respiration, puisque évidemment, vous n'avez pas pu copier toutes ces pages en une seule nuit. Vous tentez en quelque sorte, oui, de reprendre votre respiration.
Oui, c'était nécessaire parce que la lecture de ce témoignage est effrayante, elle est douloureuse.
Il y a des pages très, très dures, hein. Je ne vais pas les lire à la radio, hein. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, mais le deuxième chapitre, quand vous reprenez la rédaction, dans une deuxième partie, ce sont des massacres épouvantables qui rejoignent l'actualité du 18 avril dernier, où il y a réellement des tortures et qui concernent autant les enfants que les femmes, que les hommes.
Oui. Et donc voilà, c'était nécessaire. Cette copie s'étale pendant une semaine et je continue en même temps à découvrir, puis peut-être aussi à redécouvrir à la fois ces religieuses et puis également les Turcs qui les entourent. Finalement, en m'installant de manière plus ou moins durable dans cette petite église, j'ai eu le sentiment d'appartenir à cette communauté et en même temps, le regard que les Turcs portaient sur moi jusqu'à présent, qui avait été toujours extrêmement bienveillant, changeait à mesure que je m'installais dans cette communauté. Et ça m'a permis de comprendre finalement les souffrances de ces religieuses.
Et c'est là où en fait vous sortez du statut de pèlerin et vous devenez résident, co-résident de ces trois religieuses,
voilà, exactement.
En allant sur les pas du père Rigal à Adana.
Ouais. Elles me conduisent, c'est notamment la mère supérieure me conduit, me prend par la main, me propose des sorties et m'emmène dans différents endroits où il y a un siècle, en lieu et place de marchés, de maisons, de commerces, il y avait une église arménienne, une école chrétienne, un orphelinat, tout ça tenu par des pères, par des jésuites ou d'autres congrégations. Et aujourd'hui, plus rien. Plus rien de tout cela, si ce n'est finalement juste cette petite église qui demeure malgré tout dans cette petite ville qui aujourd'hui fait tout de même 1 million d'habitants.
Comment évangéliser pour ces sœurs? Il y a un chapitre, vous commencez par l'interrogation « à quoi bon ?» et plusieurs fois dans ce chapitre, vous répétez ces quelques mots « à quoi bon ?» et vous demandez à ces trois sœurs « à quoi bon de rester ici ?»
Oui, c'est ça, parce que finalement, tenter d'être témoin de l'Évangile, c'est prêter la main à différentes calomnies, c'est être accusé de prosélytisme et très rapidement, c'est mettre sa vie en danger. Donc, c'est pas évident dans un pays tel que la Turquie, pour ces missionnaires, pour ces religieux, de témoigner de leur foi. Et je dirais qu'ils témoignent de leur foi à l'intérieur des murs de leur église. Un point, c'est tout. Encore faut-il que les chrétiens aient le courage de franchir les murs de cette église, parce qu'ils sont, de manière quasiment systématique, fichés par une police politique et religieuse qui les suit pas à pas.
Alors, vous décrivez bien évidemment ce processus de conversion. Les sœurs qui font bien attention qu'il s'agit bien d'une vraie conversion. Lors du meurtre du 18 avril dernier, visiblement, le Turc qui a commis le massacre des des deux Turcs et de l'Allemand qui était évangéliste, connaissait bien les lieux et était bien introduit. Donc, il faut être vraiment méfiant par rapport à cela. Alors, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage pour voir ce processus de conversion. Et j'en viens tout de suite à votre retour en France. Évidemment, vous voilà avec votre manuscrit et vous décidez de faire des recherches parce que vous ne connaissez pas le nom de l'auteur de ce manuscrit.
Oui, c'est ça. Alors, c'était un petit peu compliqué. J'avais le désir de faire un livre. J'avais un manuscrit qui était intéressant, passionnant, tragique, mais passionnant. Et puis, il y a quand même une grande inconnue. C'est cette absence de nom. Je sais seulement que c'est un prêtre, qu'il était jésuite, mais c'est tout. Et donc, je commence à faire des recherches à droite, à gauche, ne sachant pas trop par où commencer. Souvent, je me perds en recherches totalement vaines qui n'aboutiront jamais. Et puis, je vais voir aux missions étrangères. C'était une fausse piste parce que finalement, il ne s'occupait pas du tout de la Turquie.
Vous achetez des livres.
J'achète des livres. Bref, je ne suis pas à plein temps sur ce manuscrit, mais j'ai toujours en tête cette recherche. Lorsque je suis à Drouot, que je cherche, je furette, toujours, j'ai toujours en tête quand même de l'idée qu'un jour, je vais retrouver un signe qui va me permettre de mettre un nom sur ce manuscrit. Et puis finalement, c'est tout simplement aux archives jésuites que je retrouve la trace de ces prêtres en faisant le décompte des différents missionnaires, en reprenant le manuscrit tel qu'il est, avec le témoignage. Le père Rigal cite un certain nombre de ces prêtres qui l'accompagnent, qui sont également témoins. J'arrive à éliminer certains noms, donc le père Benoît, d'autres noms comme ça qui apparaissent au cours du récit. Donc ça, je les connaissais, mais donc il y avait une inconnue. Et puis tout d'un coup, je tombe sur le père Rigal, je retrouve des bribes du manuscrit qui sont écrites de manière plus réfléchie, plus apaisée peut-être aussi, pour des revues jésuites. Et donc, j'arrive enfin, notamment à travers d'une photo que je retrouve également, à mettre un nom et un visage sur ce prêtre qui m'avait tenu en haleine pendant de longs mois.
Je reçois Raphaël Steinville, auteur du livre Page 200, paru aux presses de la Renaissance. Nous nous retrouvons, Raphaël Steinville, après cette toute dernière pause. À tout de suite. Thank you. Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à une page du génocide arménien, page 200, tel est le titre de votre ouvrage. Raphaël Steinville, vous êtes journaliste au Figaro, hors série, le Figaro hors série, donc partenaire de Canal Académie. Alors, vous le disiez avant cette pause, avant cette toute dernière pause, vous avez fait des recherches, vous avez retrouvé le nom et puis même mieux, vous avez retrouvé une photo du père Rigal. Vous tentez aussi d'avoir un maximum d'informations sur l'époque, comment réagissent notamment les Occidentaux face à ce massacre.
Oui, alors je m'aperçois notamment que la presse a couvert ces événements. Je retrouve un certain nombre de traces écrites, d'articles, que ce soit dans le Figaro, dans d'autres journaux étrangers. Donc ces faits n'ont pas été passés sous silence. On a des traces, et lorsque l'on furette un peu sur Internet également, la communauté arménienne, la diaspora, entretient cette mémoire, et il y a énormément de traces de ces événements.
Le génocide arménien est vraiment présent dans les esprits toujours aujourd'hui.
Oui, il est présent, il est d'autant plus présent qu'il est nié par les Turcs, et donc il y a cette... volonté, notamment des Arméniens en France, de ne pas oublier. Je ne sais pas s'ils pardonneront un jour à la Turquie. En tout cas, le pardon n'est pas l'oubli. Et ils entretiennent cette mémoire parce qu'ils se construisent et leur identité passe également par cette souffrance qui n'a pas de nom, en tout cas en Turquie, puisqu'ils refusent d'admettre ces événements. Et donc, c'est important pour eux de toujours commémorer, revenir, entretenir. On l'a vu par des films magnifiques, poignants sur le départ de ces Arméniens au moment du génocide. Il y a énormément de livres. C'est une mémoire qu'ils entretiennent en permanence.
Vous êtes retourné en Turquie depuis ?
Je suis retourné en Turquie, notamment pour les besoins de ce livre. C'est d'ailleurs là que j'ai pu retrouver un certain nombre de chrétiens qui m'avaient été présentés, que j'avais pu approcher, avec qui j'avais pu créer des liens. Et c'était...
Vous présentez Ali, c'est ça ?
Oui, Ali qui est un converti, qui a une vie absolument incroyable, qui a justement fait partie du mythe. Le mythe, c'est un peu nos renseignements généraux à nous, qui a suivi, traqué, je dirais, un peu les chrétiens dans leurs églises, collectant des renseignements, faisant des fiches. Et qui, à force de côtoyer ces religieux de près ou de loin, en est venu à être touché par le message évangélique et à progressivement se convertir. Et cette conversion n'a pas été sans mal pour lui. Sa vie en était totalement chamboulée, puisque finalement il était marié, il avait des enfants, il a tout perdu, sa femme. Sa femme l'a quitté, l'avait prévenu, ses frères, ses beaux-frères l'avaient menacé, lui interdisant d'aller plus loin dans cette démarche. Et finalement, il a préféré tout perdre plutôt que de renier cette foi nouvelle qui naissait en lui.
Comment vous voyez la Turquie aujourd'hui, notamment après le voyage de Benoît XVI ?
Alors, le voyage de Benoît XVI s'inscrivait dans une volonté peut-être d'apaiser les tensions qui étaient nées suite au discours de Ratisbonne. C'était un voyage diplomatique, mais c'était aussi un voyage pour le pape, pour témoigner de sa communion, de sa pleine communion avec les chrétiens de Turquie, mais également de manière plus large d'Orient, qui vivent leur foi dans des conditions extrêmement pénibles, souvent. Et le voyage de Benoît XVI en Turquie avait notamment un objet qui a été très mal rendu par les médias, mais c'était demander la réciprocité d'une certaine manière, c'est-à-dire que les chrétiens, s'ils vivent en Turquie sous le régime de la laïcité, s'il y a une liberté de culte, elle est quand même très réduite, alors que les choses sont différentes, notamment en Europe, où les musulmans peuvent ouvrir des salles de prière, des mosquées. Et donc voilà, il y avait la volonté, de manière discrète, à la fois de rétablir un dialogue qui avait été coupé et à la fois de demander cette réciprocité indispensable à la survie des chrétiens en Turquie, également en Orient.
Pour vous, le geste du 18 avril dernier et le geste d'extrémiste, hein, je disais au cours de, enfin, au tout début de cette émission, l'actualité tragique n'est-elle que le fruit d'un ultime geste désespéré, celui du terroriste et du kamikaze, un peu comme le geste désespéré du 11 septembre, qui est un geste sans honneur.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ce livre, si j'ai voulu aller jusqu'au bout, c'est que au fur et à mesure que j'ai travaillé sur le sujet, sur ces chrétiens en Turquie, il m'est paru évident qu'il y avait un lien extrêmement fort entre les massacres de 1909, le génocide de 1915, et finalement la réalité, la vie de ces chrétiens, vie des chrétiens en Turquie aujourd'hui. Finalement, les chrétiens sont toujours persécutés, ils sont poussés à l'exode. Au départ, leurs biens sont encore spoliés, justement parce qu'il y a un flou juridique énorme, puisqu'il n'y a pas une reconnaissance en tant que telle de l'Église. Il y a une liberté de culte, mais c'est très complexe. La laïcité telle que la définit Atatürk, et finalement, c'est difficile pour les chrétiens de s'y retrouver. Et aujourd'hui, les Turcs, il y a une flambée de violence. La constitution, comme finalement en 1915, de groupes minoritaires, mais extrêmement radicaux, qui essayent de faire passer le message que l'identité turque, c'est une identité musulmane à 100%. C'est oublier tout de même que la Turquie, c'est d'une certaine manière la terre du credo pour les chrétiens. C'est à Antioche, distant de 50 km à peine, justement d'Adana, que Pierre c'est la patrie du credo. C'est la Vierge Marie à Éphèse. Bref, c'est une terre quand même très chrétienne. Et ça, il y a la volonté de gommer toutes ces différences pour fonder une nation à 100% turque, c'est-à-dire musulmane.
Ce qui est quasiment le cas, puisqu'il n'y a il y a 99% de musulmans, 1%, ce qui représente 75 000 chrétiens.
Oui, c'est rien du tout. C'est en fait pour ça que la laïcité telle que souvent on la définit, on présente souvent la Turquie en exemple, parce que c'est vrai que c'est un pays laïque et que à côté d'autres pays voisins musulmans qui ont instauré la charia, il fait figure un peu de modèle, mais cette laïcité est tout de même à regarder de plus près. On voit qu'avec 1% de chrétiens, les conversions sont très rares. Je crois qu'il y en avait 350 l'année dernière et le chiffre paraît même exagéré. Alors, cette laïcité, c'est un cas, elle est à redéfinir, en tout cas du point de vue des chrétiens, elle est à redéfinir avec la demande insistante de plus de liberté. C'est notamment les chrétiens en Turquie demandent de pouvoir fonder des séminaires pour pouvoir avoir leur propre prêtre. Aujourd'hui, il n'y a pas de prêtre turc. Il y a des prêtres italiens, des prêtres polonais, des prêtres français. On a vu, on parlait du père Santoro, Andrea Santoro, qui a été assassiné. Il y avait aussi un prêtre français plus récemment, qui est également très grièvement blessé avant de quitter la Turquie. Bref, le contexte est très difficile et très difficile pour les chrétiens et souvent, ils sont poussés au départ.
Eh bien, nous arrivons, Raphaël Steinville, au terme de notre émission. Je rappelle à nos auditeurs que cette année est une année bien spéciale pour l'Arménie. Il y a de nombreuses expositions. Je ne vais pas toutes les citer. Je vous renvoie à notre site internet, les 12 capitales d'Arménie, par le Centre des Monuments Nationaux, à la Conciergerie, Lumière de l'Arménie chrétienne à l'abbaye de Cluny en Saône-et-Loire, ou bien encore Peinture en Arménie 1830-1930 au Petit Palais dans le 8e arrondissement, donc à Paris. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Page 200, un prêtre français témoigne du massacre des Arméniens, un ouvrage donc signé par vous, Raphaël Steinville, aux Presses de la Renaissance. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous.
Et à très bientôt, restez à l'écoute de Canal Académie.